petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, chères petites et grandes oreilles buissonnières. Au fait, miroir, mon beau miroir, dites-moi qui a les plus belles oreilles de tout le pays. Sont-ce celles aux lobes larges et lisses, celles légèrement décollées, celles aux couleurs d'écrevisses ou celles aux boucles argentées? Miroir, mon beau miroir, dites-moi si je suis belle, si je suis beau, si j'ai des poils aux aisselles, des taches dans le dos, des grains dans la tête, des plis dans les cheveux, des arêtes dans les chevilles et des vrilles dans les os. Miroir, mon beau miroir, mais dites-moi donc, est-ce vraiment moi quand je me regarde dans le miroir? Eh bien, ce sera Philippe Langevin, psychologue, qui jouera le rôle du miroir aujourd'hui pour répondre à cette question que tous, ne mentez pas, tous, vous vous êtes posé un jour. Quand je me regarde dans le miroir, est-ce moi?
Ben, moi, je dis que c'est pas vraiment nous parce que c'est juste un reflet.
Moi, je me rappelle quand j'étais petite, la première fois que je me suis vue dans le miroir, j'avais peur parce que je voyais une personne en face de moi et elle faisait exactement les mêmes gestes. Puis ma mère, elle m'a dit « Mais t'inquiète pas, c'est juste ton reflet. »
Et aussi, si on se regarde dans un miroir et qu'on met notre main vers la droite, et ben notre miroir, il le mettra dans le sens inverse.
Et mon chat, quand je le mets devant un miroir, il va essayer de s'attraper. Mais en fait, il comprend pas. C'est comme quand on est petit. Le plus souvent, on tape contre les vitres.
Ben moi, je dis que c'est nous et pas nous, parce que par exemple, quand on passe à la radio, on dit mais c'est moi ça, c'est ma voix à moi. Et devant le miroir, c'est pareil, on dit oh mais c'est moi ça. Ah je suis pas belle, j'ai un nez trop long, je suis pas beau, j'ai les oreilles décollées. On est là avec nos petites imperfections.
En fait, on voit pas de l'intérieur nous comme on est à l'intérieur, on voit juste comment on est physiquement.
On est là, donc on ne peut pas être de l'autre côté du miroir, mais ça peut être comme un deuxième jumeau, mais pas vraiment parce que il parle pas. Enfin, quand nous on parle, il ouvre juste la bouche.
Si par exemple notre reflet il avait un cerveau ou quoi, là c'est sûr que ça serait nous, il nous parlerait, trucs comme ça, il serait faire plein de choses comme nous on se fait diriger par notre cerveau. Mais c'est juste un reflet donc c'est pas nous.
Ce qui est l'image qui est dans le miroir, elle peut pas savoir. Par exemple, si t'as un secret, elle peut pas le savoir. Alors c'est pas vraiment vraiment toi.
Si c'était nous, on pourrait lui prendre le poignet par exemple. Et que dans le miroir, si on va essayer de prendre le miroir, et ben on va toucher le miroir et pas son poignet.
Si ton voisin il décrit, c'est pas pareil que quand toi-même tu te vois, tu peux trouver tes propres critères sur toi.
Et après, il voit pas nos sentiments, ce qu'on a dans la tête, si on est intelligent ou pas, ça on le voit à l'école.
Il pense pas. Quelqu'un qui pense pas, qui réfléchit pas, qui rêve pas, qui fait pas des choses importantes dans la vie qu'on fait souvent, ou qui s'ennuie pas, c'est pas nous.
Mais par contre, si on pleure et on se met devant un miroir parce qu'on passe devant et on regarde, c'est sûr qu'on va se voir en train de pleurer.
Si t'es en colère, que t'es toute rouge, tu vas te voir aussi.
Peut-être que de l'autre côté du miroir, c'est des vrais gens qu'il y a et quand ils se regardent eux-mêmes dans un miroir, ils voient de l'autre côté leur reflet, donc nous, et ils se disent, eux, ils pensent pas, ils parlent pas, ils font pas des choses que nous on fait.
Il y a peut-être d'autres dimensions, ça se trouve, dans le miroir. On a peut-être 100, 1000, je sais pas, mais il y en a peut-être beaucoup, il y a peut-être beaucoup de gens, des planètes microscopiques.
Thank you. Avant, j'avais une belle peau. J'étais mince et fier comme un pied de micro. Torse nu, pour un oui, pour un non. Quand le soleil fait ses apparitions. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Les jours de détente, on pouvait croire que j'étais le Mike Grant. À qui tout allait, qui se souciait de rien. Je mettais du 36, ça m'allait bien. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Sans devenir fou, comment devenir fin sans devenir fou? J'étais fier comme un pied de micro, brillant et creux comme un dobro, fin comme une corde, demi-triste comme un film de Jacques Demy où Catherine Deneuve fait un régime. Elle voudrait séduire Memphis Slim, mais B.B. King, fou de rage, va s'opposer à leur mariage. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir je? Montrais mon corps d'Apollo, très à l'aise dans toutes les situations, toi. Dans les grands magasins, j'essayais des maillots de bain sans jamais tirer les rideaux. Non. Mais devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment?
C'était Maigrir de Sainte-Séverino sur les oreilles buissonnières. Maigrichon, gros bidon, gringalet ou potelé, cheveux courts ou cheveux longs, poil au nez ou au menton, grand bonhomme ou comme trois pommes, chacun un jour dans le miroir s'est regardé, contemplé, détesté, admiré, rejeté, adoré. Mais avec très souvent une question dans la tête, quand je me regarde dans le miroir, est-ce moi?
Bonjour Donatienne, bonjour les enfants. Alors oui, effectivement, il s'agit d'une question, on voit bien qu'elle vous fait parler beaucoup, et si on compte le nombre de fois où on s'est regardé dans un miroir jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire que cette question-là nous occupe énormément, voire qu'elle nous préoccupe. Quand je suis devant le miroir, est-ce vraiment moi? Quelque chose, une question donc qui a occupé bon nombre de penseurs, jusqu'à maintenant, à la fois donc des artistes, des poètes, des écrivains, et qui ont tous tenté à leur manière en fait d'y répondre, mais comme c'est le cas pour tout un chacun finalement. Donc je pense qu'on est 10 ans, qu'on est 20 ans, qu'on est 40 ans, c'est une question ou un certain type de question qu'on se pose encore à l'heure actuelle, et puis on continue à y poser chacun à sa manière, en rigolant par moments, en rigolant moins à d'autres, on poursuit à tenter une réponse.
Et c'est pour ça que je vous la pose aujourd'hui d'ailleurs.
Alors on va essayer d'y répondre à un minimum, mais encore une fois je pense que c'est une question puisqu'elle se pose depuis l'aube. C'est une question à laquelle en fait on ne parvient jamais à répondre tout à fait, mais je pense qu'on peut apporter quand même quelques éléments. D'abord cette question là en fait elle nous renvoie à la question de notre apparence, à quoi on ressemble. Donc notre apparence pour les autres et pour soi-même. Elle nous renvoie à la question de notre identité, qui suis-je ? Elle nous renvoie également à la question de notre être, est-ce que j'existe vraiment ? Est-ce que je suis vraiment ? Qui sommes-nous ? C'est la question. On s'en pose d'autres de ce type-là. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Que faisons-nous ? On se pose de grandes questions comme ça, de type existentiel. Et encore une fois, je pense qu'on n'arrive pas à une réponse complète et définitive. Alors, est-ce qu'on est vraiment ? Déjà par rapport à la question, est-ce qu'on est vraiment dans le miroir, tel que la question est posée ? On voit d'emblée que cette question-là renvoie, comme le disaient les enfants, à la question du double. Dans le sens où la question qui se pose, c'est que quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je suis dans la position de celui qui est devant le miroir, donc du côté de mon corps, ou bien est-ce que je suis du côté de mon image qui se reflète ainsi dans le miroir ? On peut commencer, je pense, par décomposer la question en d'abord, qu'est-ce qu'une image ? Une image, c'est toujours le double de quelque chose. Ça, on le sait au travers de la peinture, par exemple.
De nos portraits que l'on nous fait parfois.
Voilà, soit aussi bien en fait en peinture qu'en photographie. Hein. Il s'agit toujours d'un double de nous-mêmes. Alors, ça a été vrai pour la Joconde lorsqu'elle a été peinte par Léonard de Vinci, c'est vrai y compris pour un paysage de montagne par exemple, c'est vrai, je suis en train de penser en fait à une toile assez connue d'un peintre belge, René Magritte, qui s'appelle « Ceci n'est pas une pipe ». Alors tout simplement, cette peinture, vous avez en haut de la peinture le dessin d'une pipe, et puis un peu plus bas, dans une écriture d'écolier, la phrase « Ceci n'est pas une pipe ». J'ai envie de dire « Bien sûr ».
C'est une évidence.
Donné, voilà, puisqu'on est en haut de la peinture, vous avez l'image de la pipe, donc son double, qui n'est pas la pipe en elle-même.
Ce n'est que son reflet.
Son reflet. Donc l'image est la réplique fidèle ou encore rapprochante d'un original, y compris lorsqu'il s'agit de l'image de nous-mêmes. Cette image qu'on a dans le miroir, c'est ce qu'on appelle l'image spéculaire, elle a ce nom-là, c'est bien l'image de notre corps. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant. On est sûr, au moins, qu'il s'agit de notre corps et que lorsqu'on se regarde dans le miroir, c'est vraiment nous et pas un autre. Ceci dit, cette image, comme je le disais tout à l'heure, est un double de nous-mêmes. Un double qui ne réussit pas à être conforme à ce qu'on ressent en soi-même. Hein, il y a quand même une différence, il y a un écart entre ce qu'on ressent et puis ce qu'on projette du côté du miroir.
Des fois, on n'est pas très content de se voir le matin quand on se réveille.
Par exemple, en fait, on repère quelques défauts et puis on repère aussi, on peut repérer également, comme des enfants l'indiquent, que cette image est incomplète. Il n'y a pas tout dans le miroir. Qu'est-ce qui manque ? Il manque son dos, par exemple. En général, on se regarde de face, hein, à moins d'avoir deux miroirs où quelqu'un en a accès au dos, mais c'est quelque chose de rare, donc souvent on y prête moins attention. Il n'y a pas son dos, il n'y a pas non plus ce qui se passe sous notre peau, notre chair, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps. On n'y voit pas non plus, ainsi que les autres, hein, du coup, nos pensées, nos rêves, ou encore nos émotions,
nos désirs,
tout ça, à moins de devenir, pour une raison ou pour une autre, rouge comme une tomate, auquel cas, effectivement, l'autre...
Ouvert de peur.
A accès à quelque chose, ouvert de peur. L'image est également dissymétrique, dans le sens où la gauche et la droite sont inversées, comme on peut le voir dans un miroir.
Et puis un enfant le disait tout à l'heure.
Mmh. Donc hein, elle a quelque chose de travers quand même, l'image. Elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas conforme à ce qu'on est vraiment.
Ah voilà, donc il y a lieu de se rassurer le matin quand on se regarde dans le miroir.
Alors du coup, on peut se poser quand même la question, comment ça se passe pour le petit enfant, pour le nourrisson, comment est-ce qu'il découvre son image dans le miroir pour la première fois? Ça va se faire en plusieurs étapes, sur plusieurs mois, mais le tout enfant, tout nourrisson, à quatre pattes puis debout, va être amené à passer devant un miroir, et puis à voir et à découvrir progressivement son reflet. Alors d'abord, l'enfant commence toujours à reconnaître les autres, jamais lui d'abord. Il va reconnaître sa maman, son papa, ses frères et sœurs éventuellement par le biais du visage.
Mais pas lui.
Pas lui dans un premier temps. Puis, progressivement et assez rapidement, il va commencer à s'intéresser à cette image. Alors par contre, il va s'y intéresser comme à un autre enfant, un autre nourrisson, un autre bébé.
Avec qui jouer par exemple?
Par exemple, avec qui jouer. Donc du coup, il va lui présenter ses Playmobil, il va lui présenter son doudou, des choses comme ça. Et puis, éventuellement, il va même aller jusqu'à caresser l'image de l'enfant, voire le taper l'image, ou encore lécher en fait le miroir.
Ou lui attraper le poignet, un enfant disait ça?
Alors aussi, j'entendais ça également. Sauf que, souci pour l'enfant, il se passe rien à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'image ne lui répond pas. Alors jusque-là, jusqu'à cette étape-là, je dirais que ça existe également chez d'autres animaux, chez les grands primates par exemple, le chimpanzé, le gorille. On a fait une petite expérience. Certains scientifiques se sont amusés à peindre au cours du sommeil d'un gorille par exemple, à peindre une de ses oreilles en rouge ou en bleu. Le gorille se réveille, le scientifique présente au gorille un miroir, et celui-ci, aussitôt, se gratte l'oreille, essaye d'enlever la peinture d'une de ses mains.
Donc ça veut dire qu'il se reconnaît bien.
Et voilà.
Qu'il a conscience de lui-même.
Et voilà. L'enfant puis l'adulte, hein, qu'on est tous, cette question, en fait, il va se l'approprier pour son propre cas. Ça existe chez tout à chacun, toute personne, mais l'enfant s'approprie pour son propre cas. Dans le sens où l'enfant, lui, il va chercher confirmation. Devant le miroir, il va interroger sa mère ou son père du regard, en semblant poser la question, « Maman, c'est qui dans le miroir? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas jouer avec moi ?» Et là, la maman va lui dire, elle va l'appeler par son prénom, bien entendu, la maman va lui dire, « Écoute, regarde bien, ici, c'est toi, dans le miroir, et là, juste à côté, c'est moi. » Donc, elle apporte une confirmation qui se veut toujours rassurante et qui est nécessaire. C'est-à-dire que l'enfant seul repérera effectivement qu'il s'agit de lui dans le miroir, mais je dirais qu'il n'ira pas plus loin construire une conscience qui lui est propre,
hein, il a besoin d'un tiers,
c'est-à-dire que l'enfant seul, l'être humain seul à ce niveau-là, en tous les cas, ne peut pas s'en sortir, on ne pourrait pas aller plus loin. Donc plusieurs choses concernant l'image. À la fois, elle est nôtre, ça c'est plutôt rassurant, c'est notre image. Cette image-là, malgré tout, elle est autre que nous-mêmes, en tant que reflet, comme c'est également donc le cas de notre ombre ou de l'écho de notre voix. Ça c'est quelque chose de plutôt étonnant. Et cette image est incomplète et dissymétrique, comme je le disais, confusion entre la gauche et la droite. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas toujours satisfaisant. Et c'est là qu'on retrouve ou qu'on rejoint la question des apparences, qui préoccupe énormément, on le sait, toute personne à un moment donné ou à différents moments de sa vie, notamment lorsqu'on arrive à l'âge de l'adolescence. C'est quand même pas rien que d'apparaître, se montrer aux autres. On a tous envie de se montrer sous notre meilleur aspect. En tous les cas, c'est une question qui nous taraude tous à un moment donné.
Oui, ces enfants de 8, 9, 10 ans ou ces préadolescents ou ces adolescents, ils se travestissent pour chercher l'apparence dans laquelle ils se sentent le mieux, par exemple. Est-ce que c'est une manière de chercher qui on est?
C'est une manière de chercher qui on est, et puis c'est une manière aussi, là je pense, de compléter son image, c'est-à-dire de la rendre plus satisfaisante. Encore une fois, cette image-là, l'image à laquelle on a affaire, l'image de nous-mêmes, n'est pas complète. Donc on va tenter, d'aller un petit peu plus loin.
Oui, vous dites tenter, donc ils vont tester différents déguisements, entre guillemets, pour voir peut-être lequel dans lequel ils se sentent le mieux et que ça corresponde au mieux à ce qu'ils imaginent d'eux-mêmes.
L'objectif, sans doute pour chacun, c'est de trouver en fait notre image finalement. Voilà, on la rencontre dans le miroir quand on est tout petit, mais elle nous est pas donnée. On va continuer à la construire pour essayer de s'en rapprocher davantage. Alors peut-être aussi pour oublier petit à petit, ça faut l'espérer, l'écart qu'il peut y avoir entre soi-même et son image. Toujours le même problème, c'est que si on colle trop au miroir, si on s'intéresse, bien entendu qu'on s'intéresse tous à notre image, et que c'est plutôt souhaitable par certains aspects, mais au-delà de ça, en fait, si on colle trop au miroir, le risque, c'est de ne plus en sortir finalement, en fait, quoi, c'est de ne passer tout son temps à se préoccuper de son image plutôt que de se préoccuper de soi à un autre niveau, je dirais. Donc, si on passe son temps en fait à s'occuper uniquement de son image, c'est autant de temps que l'on passe. Ça peut être un souhait par moment, hein, à oublier aussi ses sentiments, ses peines, ses amours, etc., etc. Les choses qui sont beaucoup plus davantage à l'intérieur de soi.
Et à la fois, on pourrait dire aussi que l'apparence, quelque part que l'on se donne, elle reflète aussi son intérieur, son propre soi. Parce que c'est pas la même chose que de s'habiller en rocker ou en sportif ou en vedette de cinéma. Il y a quand même, j'imagine, quelque chose de l'ordre d'un message que l'on veut transmettre de sa propre personne à travers sa tenue vestimentaire, sa manière de se donner à voir.
Ça oui, certainement. Et c'est aussi quelque chose justement qu'on accompagne toujours par des mots, qu'on accompagne par un discours. C'est-à-dire qu'on se limite pas en même temps en fait à juste oui. Donner une image aux autres. Sinon, on leur remettrait notre photo, puis à la limite, on s'arrêterait là. Hein, on accompagne toujours les choses en fait de mots. On parle aux gens. Et c'est comme ça que y a tout un jeu entre l'image qu'on donne et puis également ce qu'on leur dit. Tout un jeu en fait qui s'installe donc entre soi et les autres et qui permet aussi par le retour que les autres nous font d'en apprendre davantage sur nous-mêmes.
Donc finalement vous dites que le miroir ce serait presque les autres.
Ah le miroir c'est les autres. Là on parle du miroir, on parle de l'objet miroir hein, donc c'est quelque chose, c'est du fer, c'est du métal poli à l'origine en tant qu'objet. Bien entendu quand on parle du miroir, il faudrait aller voir plus loin pour le coup, il s'agit principalement des autres, de la manière dont ils nous regardent, et quand je dis les autres, ça peut être également soi-même comme un autre, on peut dire de la manière, donc la manière dont on se regarde soi. Et pour ça, il faut s'écarter de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut prendre un petit peu de distance, en quelque sorte, pour arriver à se voir davantage. Ce qu'on tente de faire tous. On s'amuse à se déguiser, par exemple, à se faire passer pour un autre. On s'amuse à la lecture ou à l'écoute de contes, d'histoires ou les questions de miroirs. Il y a mille et un miroirs dans la littérature. On peut reprendre par exemple Blanche-Neige et son miroir magique, hein, qui dit à la marâtre qui est la plus belle. Alors, le problème de ce miroir, comme tous les miroirs magiques, c'est qu'ils parlent, ceux-là, pour le coup, ils ont un cerveau. Par contre, ils ne disent que la vérité. Donc ça joue quelques mauvais sorts aux personnes concernées. On retrouve le même genre de miroir dans Harry Potter ou encore dans Shrek. Mais bon, dans Shrek, on lui reproche de dire trop la vérité. Donc du coup, il change son discours au fur et à mesure du film, du dessin animé en l'occurrence, pour poser moins de problèmes. Et puis, il y a également tous ces miroirs. Une des enfants, en fait, évoquait cette traversée du miroir, ce monde parallèle, imaginaire. Alors le souci, c'est qu'on y est... On n'y est jamais allé de ce côté-là, mais c'est quelque chose en fait qu'on peut découvrir, rencontrer dans le monde d'Alice au pays des merveilles par exemple, où effectivement de l'autre côté du miroir tout est transformé, tout est disproportionné. C'est un monde, une sorte de monde à l'envers.
Une sorte d'introspection quand même, non? En passant derrière le miroir, elle passe à l'intérieur d'elle-même.
L'idée, alors introspection, oui. L'idée, en passant à travers le miroir, c'est de dépasser justement cette confrontation directe, frontale, à sa propre image. Donc l'idée, c'est tout simplement d'en dire un peu plus, d'imaginer un peu plus sur soi et puis sur le monde, sur notre environnement.
Donc on voit bien que l'habit ne fait pas le moine, hein.
Ça, tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc, et... si la vie ne fait pas le moine, le costard ne fait peut-être pas la star. Alors, que cache l'homme ordinaire sous ses petits airs ?
Je suis qu'un homme ordinaire, mari fidèle et exemplaire. Je vis en couple depuis 10 ans. Je suis le père de 3 enfants. J'ai bonne situation financière, bon métier, un bon salaire, des opportunités d'évolution, des possibilités de promotion. J'aime les week-ends en famille, faire du sport avec les amis, passer le dimanche chez ma mère. Moi je suis qu'un homme ordinaire. D'à côté, je demande des nouvelles du petit dernier. C'est la moindre des choses, vous savez. Quand on habite sur le même palier, j'aide les vieux à traverser. J'en accompagne même au supermarché. Je suis poli et bien élevé, ça devient rare comme qualité. J'ai mes petites faiblesses, mes petites lâchetés. Après tout, personne n'est parfait. Il me jettera la première pierre. Moi, je suis qu'un homme ordinaire. Et bien parfois, mais tout le monde le fait. Alors pourquoi pas moi? Et puis après, il m'arrive bien parfois de me garer sur des places réservées aux handicapés. Mais après tout, les handicapés conduisent très rarement. Et si je me prends un PV, je connais le préfet, il me les fait sauter. Et puis la police ferait mieux de s'occuper de tous les voyous qui traînent dans les quartiers. Parce que je suis pas raciste, mais quand même, les étrangers profitent du système. Y en a marre d'assister tous ces fainéants qui veulent pas bosser. D'ailleurs j'ai mis mes gosses dans le privé, parce qu'au moins là-bas on les fait trimer. Aujourd'hui faut être le premier, y a pas de place pour les derniers. C'est pas moi qui irai relever un homme blessé ou allongé. Je me mets le pas de ce qui me regarde pas. À chacun sa croix et c'est mieux comme ça. Quand dans la rue un homme se fait braquer, je baisse les yeux pour pas regarder. Je vois pas pourquoi j'irai l'aider. Près du tête qu'il l'avait cherché. Moi je suis qu'un homme ordinaire. On est des milliards comme ça sur terre. Tant d'une guerre, une dictature, pour révéler au monde notre pourriture. Moi je suis qu'un homme ordinaire, rien qu'un salaud exemplaire. Mais lâcheté et mon indifférence font de moi un bourreau en puissance. Moi je suis qu'un homme ordinaire. On est des milliards comme ça sur terre. Attendre une guerre, une dictature, pour révéler au monde notre pourriture. Moi je suis qu'un homme ordinaire, ordinaire, ordinaire.
Sur les oreilles buissonnières, c'était l'homme ordinaire de Monsieur Roux. Mais je me dis quand même que sous ses airs, cet homme doit bien sentir son cœur comme une boule de papier froissé. Et vous, vous vous souvenez ce jour où vous aviez brisé par mégarde le vase de votre mère et où vous aviez accusé injustement votre grand frère qui s'est fait punir de dessert? Quand je me regarde dans le miroir, est-ce bien moi? Eh bien oui, il y a des jours où peut-être vous ne vous reconnaissez pas, où vous vous dites « mais c'est moi ça, c'est moi ?» où vous regardez en face vous dégoûte, et où même au fond, vous préféreriez que ce soit vous le privé de dessert. Alors on dit tout, on accepte, on laisse sa fierté de côté. Et là, d'un coup, le petit cœur en papier brouillon déploie ses ailes de papillon. Et là, pour un papillon, je peux vous dire, c'est drôlement bon d'admirer dans un miroir sa transformation. Mais oui, vous êtes beaux vous aussi, messieurs les éléphantaux. D'ailleurs, n'avez-vous jamais remarqué à quel point les deux oreilles d'un éléphant ressemblent aux ailes d'un papillon ? Vraiment, un éléphant, ça trompe énormément. Bref, écoutez plutôt l'histoire du petit de l'éléphant. Au temps de la plus haute antiquité, très cher petit ange, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noirâtre et bulbeux qu'il pouvait faire gigoter de côté et d'autre. Mais il ne pouvait rien ramasser avec. Cependant, il y avait un éléphant, un tout jeune éléphant, un petit éléphant, qui était plein d'une curiosité insatiable. Autrement dit, il passait son temps à poser des tas de questions. Or, il vivait en Afrique et il embêtait tout toute l'Afrique avec sa curiosité insatiable. Il demandait à sa tante l'autruche, qui était si grande, pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça. Et sa tante l'autruche, qui était si grande, le fessait de ses griffes acérées. Il demandait à son oncle, Monsieur Girafe, qui était si grand, pourquoi il avait la peau tachetée. Et son oncle, Monsieur Girafe, qui était si grand, le fessait de ses durs sabots. Et malgré tout, il était plein d'une curiosité insatiable. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, sentait, reniflait ou touchait, et tous ses oncles et tantes le fessaient. Malgré tout, il était plein d'une curiosité insatiable. Un beau matin, vers le milieu de la précession des équinoxes, cet insatiable petit de l'éléphant posa une nouvelle question, une très bonne, qu'il n'avait encore jamais posée. Il demanda « Qu'est-ce que le crocodile mange au dîner ?» Alors ils crièrent tous « Chut !» d'une voix terrible et se mirent aussitôt à le fesser sans interruption pendant un bon bout de temps. Un peu plus tard, une fois la fessée terminée, il rencontra par hasard l'oiseau Colo-Colo trônant au milieu d'un buisson épineux de jujubier et il lui dit « Mon père m'a fessé et ma mère m'a fessé. Tous mes oncles et tantes m'ont fessé à cause de ma curiosité insatiable. Malgré tout, j'ai envie de savoir ce que le crocodile mange au dîner. » Alors l'oiseau Colo-Colo répondit en poussant un cri de détresse. « Va sur les rives du grand fleuve Limpopo aux eaux huileuses, vertes de gris et bordées d'arbres à fièvre, et tu verras. » Dès le lendemain matin, alors que les équinoxes avaient totalement disparu, cet insatiable petit de l'éléphant prit 50 kilos de bananes, de celles qui sont petites, courtes et rouges, 50 kilos de canne à sucre, de celles qui est longue et violette, et 17 melons, de ceux qui sont verts et craquelés. Puis il dit à tous les membres de sa chère famille « Au revoir, je m'en vais au grand fleuve Limpopo, aux eaux huileuses, vert de gris et bordées d'arbres à fièvre, pour savoir ce que le crocodile mange au dîner. » Puis il se mit en route et se sentait un peu chaud, mais ne s'en étonnait pas, et mangeait des melons dont il abandonnait les écorces un peu partout, car il ne pouvait les ramasser. Il alla de Grahamstown à Kimberley, de Kimberley au pays de Kama, puis du pays de Kama, il prit la direction du nord-est, mangeant des melons tout le long du chemin. Enfin, il arriva sur les rives du grand fleuve Limpopo, aux eaux huileuses, vert de gris et bordées d'arbres, à fièvre, exactement comme l'oiseau Colo-Colo le lui avait dit. Maintenant, sache-le et comprends-le bien, très cher petit ange. Jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute précise, cet insatiable petit de l'éléphant n'avait jamais vu de crocodile et ignorait à quoi ça ressemblait. C'est pour ça que sa curiosité était insatiable. Le premier truc qu'il rencontra fut un serpent python des rochers bicolores enroulé autour d'un rocher. « Excusez-moi, » dit le petit de l'éléphant avec la plus grande politesse, « mais avez-vous vu ce qu'on appelle un crocodile dans cette région très fréquentée ?»« Si j'ai vu un crocodile, » fit le serpent python des rochers bicolores d'une voix pleine d'un mépris terrible. « Et quelle va être ta question suivante ?» « Excusez-moi, » dit le petit de l'éléphant, « mais auriez-vous la gentillesse de me dire ce qu'il mange au dîner ?» Alors le serpent python des rochers bicolores se désenroula du rocher à toute vitesse et se mit à fesser le petit de l'éléphant de sa queue cinglante garnie d'écailles. « Ça c'est bizarre, » remarqua le petit de l'éléphant, « car mon père et ma mère, mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante, Madame Hippopotame, et de mon autre oncle, le babouin, m'ont tous fessé à cause de ma curiosité insatiable. Et je suppose que ça recommence avec vous. » Il salua donc le serpent python des rochers bicolores avec la plus grande politesse. Et il poursuivit son chemin. Il se sentait un peu chaud, mais ne s'en étonnait pas du tout. Et il mangeait des melons dont il abandonnait les écorces un peu partout, car il ne pouvait les ramasser. Il finit par poser le pied sur ce qu'il prit pour une bûche posée tout au long du grand fleuve Limpopo, aux eaux huileuses, vert de gris et bordées d'arbres à fièvre. En réalité, c'était le crocodile, très cher petit ange, et le crocodile cligna de l'œil, comme ça. « Excusez-moi, » dit le petit de l'éléphant avec la plus grande politesse, « mais est-ce que par hasard vous avez vu un crocodile dans cette région très fréquentée ?»
Alors le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à moitié sa queue hors de la vase. Et le petit de l'éléphant s'écarta avec la plus grande politesse, car il n'avait pas envie d'une nouvelle fessée. « Rapproche-toi, tout petit, » lui dit le crocodile. « Pourquoi poses-tu de pareilles questions ?»« Excusez-moi, » dit le petit de l'éléphant avec la plus grande politesse, « mais je ne voudrais plus recevoir de fessées. » « Rapproche-toi, tout petit, » fit le crocodile, « parce que le crocodile, c'est moi. » Et il versa des larmes de crocodile pour prouver qu'il disait vrai. Alors le petit de l'éléphant perdit le souffle. Tout haletant, il s'agenouilla sur la berge et dit « Vous êtes celui-là même que je cherche depuis si longtemps. S'il vous plaît, voulez-vous me dire ce que vous mangez au dîner ?»« Rapproche-toi, tout petit, » fit le crocodile, « et je te le dirai à l'oreille. » Alors le petit de l'éléphant baissa la tête tout près de la gueule du crocodile, pleine de drôles d'odeurs et de drôles de dents, et le crocodile l'attrapa par son petit nez qui, jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute précise, n'était pas plus grand qu'une botte, quoique beaucoup plus utile. « Je crois, » dit le crocodile, et il le dit entre ses dents comme ça, « je crois qu'aujourd'hui je vais commencer par un petit éléphant. » À ces mots, très cher petit ange, le petit de l'éléphant fut très enquiquiné et il dit en parlant du dé comme ça « Lâchez-moi, vous me faites mal !» Alors le serpent python des rochers bicolores descendit la berge en sinuant et déclara « Mon jeune ami, si tu ne te mets pas illico immédiatement et sans délai à tirer aussi fort que tu peux, mon opinion est que ta nouvelle connaissance au manteau de cuir à large damier, c'est ainsi qu'il désignait le crocodile, va te flanquer dans ce courant limpide sans te laisser le temps de dire « ouf ». C'est dans ce style que s'expriment toujours les serpents pitons des rochers bicolores. Alors le petit de l'éléphant s'assit sur son petit arrière-train et tira, 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 et son nez se mit à s'allonger. Et le crocodile s'enfonça dans l'eau qu'il rendit toute crémeuse en la fouettant à grands coups de queue. Puis il tira, 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 et le nez du petit de l'éléphant continuait de s'allonger. Et le petit de l'éléphant s'arc-bouta sur ses quatre petites pattes et tira, 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 et son nez continuait à s'allonger. Et le crocodile, agitant sa queue comme si c'était un aviron, tira, 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 et à chaque fois le nez du petit de l'éléphant s'allongeait un peu plus, et ça lui faisait un mal fou. Alors le petit de l'éléphant sentit ses pattes glisser et il dit en parlant du dé qui avait atteint près d'un mètre cinquante de long « J'en peux plus !» Alors le serpent python des rochers bicolores descendit de la berge et de son corps fit deux doubles nœuds autour des pattes arrière du petit de l'éléphant. Et il dit « Voyageur à la manque, il faut à présent nous consacrer sérieusement à exercer une certaine tension parce que sinon j'ai l'impression que ce cuirassé au pont supérieur blindé » Par ces mots, très cher petit ange, il entendait le crocodile, va mettre un terme définitif à la carrière qui t'attend. C'est dans ce style que s'expriment tous les serpents pitons des rochers bicolores. Ainsi donc, il tira, et le petit de l'éléphant tira, et le crocodile le tira. Mais le petit de l'éléphant et le serpent piton des rochers bicolores tiraient plus fort. Enfin, le crocodile lâcha le nez du petit de l'éléphant et fit un plouf qu'on aurait pu entendre d'un bout à l'autre du Limpopo. Alors, le petit de l'éléphant se laissa choir brutalement sur son derrière. Ensuite, il soigna tendrement son pauvre nez allongé. Il l'enveloppa dans des feuilles de bananier fraîches et le trempa dans le grand fleuve Limpopo aux eaux huileuses vert-de-gris pour le rafraîchir. « Pourquoi fais-tu ça ?» s'enquit le serpent python des rochers bicolores. « Excusez-moi, » dit le petit de l'éléphant, « mais mon nez est salement déformé et j'attends qu'il rétrécisse. »« Dans ce cas, il faudra que tu attendes longtemps. » dit le serpent python des rochers bicolores. Il y en a qui ne connaissent pas leur chance. Voilà, c'était le petit de l'éléphant, des histoires comme ça de Kipling. Je me demande ce que ça ferait, tiens, si un beau jour on tirait tous très fort sur nos nez ou nos pieds, nos orteils ou nos oreilles. Ah oui, tenez, les oreilles, essayez, sur vos sœurs, vos frères, vos grands-mères, vos copains et vos voisins. Peut-être alors serez-vous fiers d'avoir créé une génération d'oreilles buissonnières. Voilà, chez nos grandes oreilles buissonnières à nous, c'était aujourd'hui Philippe Langevin, psychologue, Sylvère Petit, monteur son, Raphaël Terribilet, derrière la console aujourd'hui, et moi-même, Donatienne Rank. Vous pouvez réécouter nos émissions sur www.lesartsbuissonniers.com. Allez, portez-vous bien, soyez vous-même, et à bientôt. Thank you.
Thank you.